Saint Jean de Dieu, fondateur des religieux hospitaliers ou de la charité. Ce saint a vécu au XVe siècle, alors que les papes étaient Alexandre VI et Jules III. Le roi d'Espagne était Charles Quint, appelé ainsi, ou Charles Ier. C'est le 8 mars 1495 que naissait à Monte Maior Nuovo, petite ville du diocèse d'Évora, en Portugal, un enfant qui reçut au baptême le nom de Jean. Il fut élevé par son père, nommé André Ciudad, et par sa mère, nommée Teresa, dans des sentiments très chrétiens. Souvent, ce sont les parents qui ont fait les saints. Ses parents n'étaient pas très riches, de sorte que leur plus grand trésor était leur fils. Et ils se promettaient qu'il serait un jour le bâton de leur vieillesse, l'aide de leurs vieux jours. Mais ils s'en virent privés au moment où ils commençaient à en recevoir quelques satisfactions. Car à peine Jean avait 8 ans que commença pour lui une vie aventureuse qui devait le plonger malheureusement d'abord dans bien des vices. Un soir, ses parents, qui étaient pieux et charitables, accueillirent sur leur toit un voyageur qui se rendait dans l'Espagne. La description que ce dernier fit des églises de Madrid et des autres beautés de la grande ville frappa vivement l'imagination du jeune petit Jean. Le lendemain, au lever du jour, le voyageur se mit en route après avoir affectueusement remercié les parents de Jean. Pourtant, une pensée coupable s'était emparée de l'esprit du petit. Pensée qui fut le premier anneau de la longue chaîne de souffrances qu'il devait parcourir. Il s'était dit qu'en suivant les traces de cet étranger, il pourrait se rendre à Madrid. Et ne calculant ni la longueur du chemin, ni son manque absolu d'argent, ni le désespoir dans lequel il allait plonger ses parents, il se glissa hors du logis et prit la direction de l'Espagne. Il fit ainsi plusieurs kilomètres sans presque s'arrêter. André et Teresa n'avaient pas d'abord eu d'inquiétude, car ils supposaient que Jean était allé, selon son habitude, faire visite à un oncle. Mais au bout de quelques heures, ne le voyant pas revenir, ils s'alarmèrent vivement. André courut chez son frère et cria de loin : « Où est Jean ? Ton fils ? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. » Rempli de crainte, André retourna précipitamment chez lui. Plusieurs jours s'écoulèrent en recherche infructueuse. Il fallut qu'André se décida à revenir seul et le cœur brisé, sans plus d'espoir. En arrivant un soir à la porte de la maison, il s'arrête un moment. Triste messager, il ne pouvait se décider à annoncer la mauvaise nouvelle. Lorsqu'enfin il eut frappé à la porte et qu'il lui dit « C'est moi !» il fut effrayé de ne pas entendre la voix de Teresa. Teresa qui le saluait dès son retour avec tant de joie. Il s'avança précipitamment et aperçut sa pauvre femme étendue dans son lit, en proie à une forte fièvre. Celle-ci répondit par un sourire affectueux et lui tendit une main brûlante. « C'est donc toi, André, te voilà seul ?»« Oui, je suis seul. Toutes mes recherches ont été infructueuses. Jean nous a quittés. Il ne nous aimait donc pas. Lui que nous avons tant aimé, il ne songeons plus maintenant à cet ingrat. » Ne pense plus à lui maintenant et retrouve la santé. André, tes désirs sont inutiles. La maladie dont je suis atteinte, je vais m'emporter dans la tombe. Oh, ma Teresa, tu vas mourir, tu vas me laisser seul. Sans toi, sans mon fils, que vais-je faire ici-bas? Eh bien, je vais te l'apprendre. Mais sois plus calme, plus courageux. Tes sanglots me troublent. Écoute, André, écoute bien. Dieu est venu me parler. Il a daigné m'envoyer l'ange gardien de notre petit Jean. L'esprit immortel m'a encouragé à être patiente, à ne plus murmurer. Il m'a rassuré sur le sort final de notre fils. Jean doit traverser de longues épreuves, mais qui l'affermiront dans sa vertu. Teresa, tu as rêvé? C'est le fait de la maladie. Non, André, non. Je ne dormais pas. Je ne souffrais même pas lorsque le ciel a dévoilé l'avenir à mon âme. Écoute encore. Quand je ne serai plus là, quand je reposerai dans ma dernière demeure, donne aux pauvres le peu que nous possédons et consacre-toi au service de Dieu en devenant frère franciscain. Teresa, puisque ces paroles viennent du ciel, eh bien j'obéirai, je te le promets. Ah, je meurs heureuse, car me voilà rassurée sur le sort des deux êtres que j'ai le plus aimés. Adieu, André, au revoir, là-haut. Et elle rendit son âme à Dieu. Jean, suivant toujours de loin les traces du voyageur, avait atteint la Castille. La fatigue l'accablait, et nourri par la charité publique, il avait eu souvent peine à trouver un morceau de pain noir séché, et lui avait fallu coucher sur les grands chemins exposés à la pluie et à la chaleur du jour. Que de fois il avait regretté les soins si bons, si multipliés de sa bonne maman. Que de fois il s'était représenté ses parents attristés et l'accusant d'ingratitude. Mais à mesure qu'il s'éloignait, sa pensée s'envolait vers la maison paternelle. Il sentait bien combien un enfant est faible quand la protection de ses parents vient à lui manquer. Mais une sorte de crainte, de mauvaise honte, de respect humain le retenait de revenir et de demander pardon. Ah, s'il avait prié à ce moment, Dieu lui aurait donné le courage de revenir. Il allait toujours en avant. Maintenant, ce n'était plus pour satisfaire sa démangeaison d'apprendre des nouveautés, mais c'était parce qu'il n'osait pas revenir en arrière. Peut-être aussi était-il nécessaire que la volonté de Dieu s'accomplisse, cette volonté que sa maman avait connue par l'ange. Il se trouvait maintenant à Oropesa quand il fut obligé de s'arrêter. Dévoré par la faim, dénué de toute ressource, il s'assit en pleurant sur un gros rocher. Une voix rude le tira de cet état d'engourdissement. « Hey, lève-toi !» Il lève les yeux et aperçoit un berger qui le regardait attentivement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Jean raconta franchement son aventure sans chercher à l'excuser. C'était un berger espagnol. Il réfléchit un instant. Tu as eu grand tort d'abandonner ta famille. Pense à la douleur que tu lui as causée. Moi qui aime tendrement ma madre et ma fille, ma petite Mariquita, je me ne consolerai jamais si on me l'enlevait. Mais puisque le mal est fait, appliquons-y un remède. Quand un voyageur de ma connaissance ira en Portugal, je le chargerai de donner tes nouvelles à tes parents. En attendant, comme il faut que tu vives, honorablement, et non pas comme un vagabond, tu as 8 ans. Si tu veux garder un de mes troupeaux, je te payerai bien. Jean accepta, car travailler, c'était manger. Pendant plusieurs années, Jean exerça ce rude métier, car il était jeune, toujours seul et en présence de la nature. Il sentait son âme s'élever, son intelligence se remplir de l'infinité de Dieu. Souvent, il pensait à son papa, à sa maman. Son espoir le plus cher était de les revoir un jour, de les surprendre par ses progrès dans les vertus et de leur montrer son repentir. Avec l'aide d'un moine qui venait quelquefois quêter à la ferme, il apprit à lire et grâce à la bibliothèque du couvent d'un bon religieux, il put mettre à profit pour s'instruire les longues heures qu'il passait dans les champs auprès de son troupeau. Son patron, González, satisfait de son excellente conduite, et appréciant sa vive intelligence, le mit à la tête de la ferme. L'administration de Jean fut si bonne qu'au bout de peu de temps, la fortune du berger fut immense. Alors un jour, Gonzalez invita Jean à le suivre dans son jardin et lui dit « Je suis vraiment content de tes soins. Tu as été un fidèle serviteur. Je veux dignement te récompenser en te donnant en mariage ma fille, Mariquita. Tous ces biens seront à toi. Je me fais vieux, je n'ai plus besoin que de repos. Je serai donc très heureux de voir ma fille mariée à un honnête homme et en même temps de te donner assez de richesses pour que tu n'aies plus de soucis. » Mais au lieu d'accueillir avec joie une offre si brillante, Jean fut épouvanté. « Oh, mon maître, je n'ose me réjouir de votre générosité, car j'en suis trop indigne. Qu'ai-je fait pour que vous daigniez m'offrir ce que vous avez de plus cher? J'ai rempli mon devoir, voilà tout. D'ailleurs, une voix secrète de Dieu me dit que je ne dois pas accepter, du moins maintenant. Je ne dois pas me marier. Il me semble que la liberté ne m'appartient pas, que je ne dois pas en disposer, car j'ai trop péché. » Et il faut que je répare, que je fasse pénitence. » Alors, pendant la nuit, Jean, qui était retiré dans sa chambre, s'agenouilla devant une image de la très sainte Vierge Marie, seul ornement de sa modeste pièce. Là, Jean pria longtemps. Les « Je vous salue Marie » se succédaient les uns après les autres. Sa prière fut longue, fervente, et quand il se releva, il se sentit plus fort, plus calme, plus paisible. « Non, se dit-il, je n'abuserai pas de la générosité de Gonzalez. Plus tard, il regretterait peut-être son ouvrage. Je suis entré pauvre dans sa maison, j'en sortirai pauvre. J'ignore vers quel but la Sainte Vierge veut me conduire, mais mon cœur m'annonce que mes épreuves ne doivent pas être finies et que je n'ai pas assez expié mes péchés envers mes parents. » Alors Jean prit une résolution qui devait lui épargner l'embarras d'une explication avec Gonzalez. Avant le jour, il sortit de la ferme sans être remarqué et partit en toute hâte. Après une heure de marche, la réflexion éclaira son esprit. Le fantôme horrible de la misère se dressa devant ses yeux. Jean sentit la nécessité de travailler, d'avoir un métier, pour avoir de l'argent et manger. Mais ce qu'il désirait surtout, c'était de quitter le pays, pour n'être pas ramené par la reconnaissance vers la maison de Gonzalez. Comme il entrait dans Oropeza, il aperçut une compagnie de soldats qui occupait la place principale où elle exécutait des manœuvres. Jean s'approcha et considéra quels étaient les exercices de ces militaires. L'officier, dont la troupe n'était pas au complet, songea tout de suite à faire l'acquisition de ce jeune villageois pour en faire un soldat. Alors le chef l'appela. « Hé là, l'homme, viens par ici. Aussi vrai que je m'appelle Don Ferroz, il y aura pour toi beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, si tu veux suivre notre drapeau dans l'armée de Charles Quint. Car nous allons au siège de Fontarabie, sur les frontières de la France. » Jean accepta. C'était pour lui l'assurance de la nourriture. Aussitôt, on lui fit endosser une casaque, et on lui mit aux mains une grande lance. Désormais, il était au service de Charles Quint. La vie des camps était bien turbulente et dissipée, pas très morale. La plupart des soldats, dont se composaient les armées, avaient engagé pour de l'or. C'était généralement des vagabonds, des pauvres étudiants, des laquais sans emploi, ou bien des aventuriers, des pillards effrontés, aussi dangereux pour leurs alliés que pour leurs ennemis. Impitoyables dans la victoire, mais cédant au premier choc des véritables guerriers. jeté au milieu de ces soudards, Jean ne pouvait éviter leur influence mauvaise. On finit par ressembler à ceux que l'on fréquente. Vous savez que le proverbe dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». En fréquentant les saints, on devient plus saint. En fréquentant les mauvais, on devient plus mauvais. Sans imiter leurs actions immorales, sans souiller ses lèvres des mêmes blasphèmes qu'il entendait, malheureusement, il abandonna ses prières et sa pratique religieuse. Il se cachait même d'être un honnête homme, d'être un chrétien, comme on se cache d'être un assassin. Bientôt même, les péchés de ses camarades lui causèrent moins d'horreur. Et dans ce tourbillon qu'il entraînait, il n'osait plus s'interroger sur l'état de son âme. Quelques pas de plus peut-être, et il serait tombé dans un abîme. Mais pourtant, une circonstance à la fois funeste et heureuse va l'arracher de ce péril, car la Providence veillait. La compagnie manquait de nourriture. On envoya Jean, comme le plus jeune, pour en chercher au village voisin. Il monta sur un cheval, récemment pris à l'ennemi, mais l'animal, reconnaissant de loin son camp ennemi, voulut y retourner. Il coura à toute allure, mais le cavalier résista. Alors le cheval se cabra avec une telle fureur que Jean fut lancé par elle sur des amas de pierres, et il s'évanouit. La douleur le réveilla enfin, mais ce fut pour montrer dans quel danger il était en ce moment. Le camp des Français était à quelques pas de là. Jean était paralysé par la douleur et par la peur. Il tremblait qu'un ennemi s'aperçût de sa présence, car blessé comme il l'était, il n'aurait même pas pu se défendre. Que faire dans un tel danger? Que faire si près de la mort? Prier. Son ange gardien lui inspira « Prie !» Et alors sa foi se réveillant devant ce danger imminent, il se mit à prier la très sainte Vierge Marie par une fervente prière. « Sainte Vierge Marie, sauvez-moi! Si vous me sauvez, je vous promets de me convertir une fois pour toutes !» À peine avait-il achevé sa prière que les forces lui revinrent tout à coup. Il était comme guéri miraculeusement sur place. Et il put sans danger regagner le camp espagnol. Oui, l'épreuve, le danger, la mort imminente, Dieu l'avait permise pour réveiller sa foi et lui donner un bien plus grand. Car si Dieu permet le mal, c'est toujours pour un plus grand bien. On l'avait chargé de garder un riche butin qui devait être partagé entre les hommes de la compagnie. Mais des voleurs très malins, s'emparèrent de la plus grande partie de cet argent et Jean fut accusé par ces mêmes bandits. Alors, devant le mépris de ses chefs, devant la haine de ses camarades, ne pouvant prouver son innocence et se rappelant la promesse qu'il avait faite à la Sainte Vierge, Jean quitta définitivement l'armée. N'ayant pas d'autre ami que son ami Gonzalez, il retourna dans cette maison fraternelle. Le temps n'avait pas changé cet excellent homme. Je suis toujours prêt à te donner ma fille et tous mes biens. Oh, monsieur Gonzalez, pourquoi me tentez-vous ainsi par tant de générosité? Ne comprenez-vous pas que je ne suis point appelé ici-bas à jouir du repos que donnent les richesses? Quelle que soit ma destinée, je sens qu'elle n'est pas accomplie. Dieu nous a créés et mis sur la terre pour les bonnes œuvres.
Il y a en moi un pressentiment vague qui m'agite et dont je me ne rends pas bien compte. Ô mon maître, si je suis revenu ici, c'est pour vous revoir, pour vous dire merci, mais pas pour jouir du repos. Il raconta au berger les circonstances qui avaient suivi son départ, puis ajouta : Le roi d'Espagne se propose de faire la guerre aux musulmans en Hongrie. Quoique j'aie sujet d'être mécontent du service militaire, cependant je marcherai bien volontiers dans les rangs des soldats du Christ, puisque c'est une cause religieuse que ces soldats défendent. Il me semblera, en combattant les ennemis de notre religion, que je me purifierai de mes péchés passés. Autant les luttes entre les chrétiens sont odieuses, autant il est noble de verser son sang pour la défense de l'Église, pour empêcher les musulmans d'envahir l'Europe. Va, mon fils, s'écrie Gonzalès, c'est le ciel qui t'inspire. Tous les intérêts doivent se taire devant un tel idéal. Seulement, si jamais tu reviens en Espagne, songe que Gonzalès te recevra toujours avec plaisir sous son toit. Mon principal regret, dit Jean, c'est qu'il ne m'ait pas encore été donné de revoir mes parents. Plusieurs fois, j'ai prié les voyageurs de leur porter des lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse. Il faut que je retarde encore mon retour. Si j'échappe au danger de cette guerre contre les musulmans, mon premier soin sera de revoir les lieux où je suis né, d'embrasser les parents chéris que Dieu m'a donnés et qui m'attendent certainement avec impatience. Mon ami Jean, je ne sais pas si tu les reverras. Oh, mon ami, ne m'inspirez pas ce doute cruel. Vous briseriez toute ma force. Et Jean partit pour la guerre contre les musulmans. Avec beaucoup de générosité et de courage, il participa à cette grande œuvre chrétienne. Puis après plusieurs années, la guerre étant terminée, il revint enfin dans son pays, extrêmement fatigué. Mais il marchait de plus en plus vite à mesure qu'il approchait de son pays natal, du Portugal. Tout à coup, il vit sa maison. Et il fit un brusque mouvement et poussa un grand cri de joie en voyant un vieillard qui s'est arrêté pour le regarder. « Oh, mon nom Fabrizio, je suis Jean !» Le petit Jean. Le vieillard répéta d'un ton d'étonnement. Quoi? Jean? Mais il est mort. Mais non, je suis bien changé, mais je suis toujours vivant. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre neveu. Quoi? Tu es donc vivant après tant d'années? Oh, comme tu as changé. Mais que viens-tu faire ici, malheureux? Mais comment pouvez-vous me le demander? Je viens revoir mes parents, leur demander pardon et les aider pour les quelques années qui restent. L'oncle leva les mains au ciel et dit, ils sont au ciel maintenant. Depuis longtemps, ils ne souffrent plus. Jean suivit machinalement des yeux le geste du vieillard. Cette nouvelle était si accablante pour lui qu'il était pétrifié. Que me dites-vous là? Mon père, ma mère sont morts? Oui, ils ont quitté ce monde. Alors les larmes inondèrent le visage de Jean. Et ses paroles entrecoupées s'échappèrent de son cœur oppressé. Ils sont morts. Et c'est moi qui leur ai donné le coup fatal. C'est moi qui les ai fait mourir. Ils m'avaient comblé de tendresse, de bienfaits. Et je les ai payés d'ingratitude, de mort. Ils comptaient sur moi pour le soulagement et la joie de leur vieillesse. Et je me suis enfui, emportant leur bonheur. Je ne suis plus digne de voir la lumière du jour. Après cette explosion de douleur, Jean se recueillit un instant et pria son oncle de vouloir bien l'accompagner jusqu'au cimetière. Guidé par son nom Fabrizio, Jean s'arrêta bientôt devant la simple pierre sous laquelle reposait l'épouse d'André. Une inscription grossièrement tracée et que le temps avait effacée à demi rappelait le nom de Thérèse, la date de sa mort et invoquer pour elle les prières des chrétiens. Ce fut avec une grande émotion et un grand repentir que Jean pria longtemps devant la tombe de sa maman. Devant ce mausolée, Jean pleurait. Il se frappait la poitrine, se meurtrissait le visage, appelait sur sa tête la punition du ciel et répétait constamment « c'est moi qui l'ai tué. Pardon, pardon, maman. Pardon, mon Dieu, pardon. Éternelle pénitence. » Résolé de pleurer ce malheur, ou plutôt ce crime, Jean quitta son pays comme un assassin qui avait tué sa mère. Il s'en va en Andalousie. Il se loue dans une famille riche du territoire de Séville en qualité de berger, après avoir fait une confession générale de sa vie. Il voulait sans doute se livrer au conseil de la solitude, réfléchir, en face du ciel qu'il a offensé, en face de son âme qu'il a perdue. Il gémit, il pleure. Il cherche comment pouvoir réparer son ingratitude envers Dieu. Il entrevoit déjà vaguement que ce sera par le sacrifice de lui-même, en se dévouant pour le prochain, forme la plus visible que Dieu a revêtue pour s'offrir à notre amour. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Jean obéit à cette inspiration qu'il appelle, et il se met en route pour l'Afrique. Il veut porter pour toujours secours aux esclaves chrétiens et les racheter s'il le peut. Dans un hôpital où il s'arrête, il assiste les pauvres et dit à haute voix que Dieu tirerait vengeance de ceux qui avaient plus de soin de leurs chevaux que des pauvres et des malades. À Gibraltar, il rencontre un gentilhomme qui servait le roi Jean Ier. La profonde affliction qui se lisait sur ce visage de ce gentilhomme attira l'attention de Jean. Il s'approche, salue respectueusement et lui dit « Seigneur cavalier, vous êtes triste, seriez-vous un prisonnier ?» Gentilhomme, loin de se vexer de cette apparente curiosité, répondit à demi-voix « Oui, mon ami, le roi m'a enlevé mes biens et condamné à l'exil. On me conduit à Ceuta. » sur les côtes de la barbarie. Ce n'est pas ma chance, je le regrette. Je suis déjà un peu vieux. Peu m'importerait de terminer mes jours au Portugal ou en Afrique. Mais ma famille a été enveloppée dans ma disgrâce. Ma femme, mes filles devront venir avec moi et peut-être mourir dans ce climat meurtrier. On nous exile et pourtant je n'étais pas coupable. Jean lui dit, consolez-vous, Seigneur. Heureux qui possède la paix de sa conscience. C'est ça qui compte. Si vous voulez, par amour pour Dieu, je viendrai avec vous et je vous servirai. Quelle joie pour ce gentilhomme. Le navire qui devait transporter le comte da Silva était prêt à quitter Gibraltar. Les officiers portugais ordonnèrent au noble veillard de les suivre et à Jean de se retirer. Mais celui-ci dit avec fermeté, n'ai-je pas le droit de m'attacher à cette personne pour le servir en Afrique ? Je l'accompagnerai. Hélas, mon ami, dit à son tour le comte da Silva, je serais bien heureux de vous prendre avec moi, mais je ne pourrai pas vous payer. Payer ? Je viens pour l'amour de Dieu. Je ne vous demande rien du tout. J'ai des péchés à expier. Le vaisseau mit la voile et emmena le comte, sa famille et Jean vers l'Afrique. À peine les exilés avaient-ils touché le sol de l'Afrique que minés par la misère, exténués par les chaleurs excessives du climat, ils tombaient à tous malades. La conséquence fatale de cet état de choses fut que le peu qui leur était resté de leur argent fut bientôt épuisé en médicaments. Mais Dieu, bon et miséricordieux, avait laissé à Jean assez de santé pour servir les malades. Pressé par un besoin extrême, le gentilhomme un jour prit Jean à part et lui révéla toute l'horreur de sa position. il finit par lui dire « Si vous pouviez vous résoudre à travailler aux fortifications de Ceuta, les travaux forcés, et à partager avec nous votre salaire, nous serions sauvés. Ayez pitié de ma femme et de mes 4 filles. » Jean, pensant à tout l'amour que Dieu avait eu pour nous, à toutes les souffrances qu'il avait endurées depuis la crèche jusqu'à la croix, se dit qu'il ne pouvait pas faire moins. Se rappelant les paroles de l'évangéliste Saint Jean, « Si Dieu a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Et il accepta les travaux forcés pour son ami, mais surtout par amour pour Jésus et pour réparer ses offenses faites à Jésus.
Jean épuisa d'abord toutes ses richesses afin d'aider son maître. Puis, non content seulement de veiller toutes les nuits sur le malade, car son maître était malade, il accomplissait durant la journée entière les travaux les plus fatigants. Aucune fatigue ne le repoussait. C'était lui qu'on voyait le premier sur le port, prêt à louer ses bras pour décharger les navires, toujours gratuitement. Fallait-il s'armer d'une pioche et ouvrir une route ou travailler au rempart de la ville? Jean donnait aux terrassiers l'exemple de la fatigue. Enfin, il paraissait infatigable. Jour après jour, Jean travaillait pour réparer ses péchés. Un jour qu'il n'avait pas trouvé de travail, il consola son maître et le nourrit d'une partie de ses vêtements qu'il vendit. Malgré ses nombreuses occupations, il trouvait encore le moyen de pénétrer dans les prisons, de faire entendre aux prisonniers des paroles de consolation. Il était à la fois pour eux le médecin de l'âme et le médecin du corps. Le comte da Silva sentit arriver le terme de ses malheurs. Jean ne l'avait pas quitté un seul moment depuis qu'il avait reconnu la gravité de sa maladie. Profitant d'un reste de force, d'un dernier souffle de vie, l'exilé dit à son fidèle serviteur « Je veux te remercier, toi qui as été mon véritable ami, toi qui m'as montré un dévouement à toute épreuve. Avant que nous nous quittions, pour nous revoir dans l'éternité, reçois mes remerciements et ma bénédiction. Ta part sur terre est petite, alors elle sera magnifique dans le ciel. Là, plus de distinction de rang, de fortune, des frères, des élus, un seul Dieu pour tous. Ne t'inquiète pas du sort de ma famille. Le capitaine Martinez m'a appris que le roi daigne la rappeler en Portugal et lui rendre une partie de ses biens. Si tu veux l'y suivre, ton avenir sera sûr et assuré. » Jean répondit, « Merci, mais je ne peux pas, digne Seigneur. Cette paix n'est pas faite pour moi. Une fois déjà, j'ai refusé la fortune et le bonheur. Si j'étais riche, peut-être n'éprouverais-je plus le même miséricorde pour les pauvres et pour les malheureux. Je dois vivre et mourir pauvre. » Alors le comte murmura, « Et moi, une voix du ciel me dit que tu seras un des plus glorieux apôtres dont l'Espagne se soit jamais honorée. Oui, tu seras grand devant Dieu et devant les hommes. » Et notre ami rendit son âme à Dieu. Jean repartit pour l'Espagne. Le navire où il était furent surpris par une si furieuse tempête au passage du détroit de Gibraltar qu'on n'y attendait plus que l'heure de la mort. Jean pensait que ce malheur était dû à ses péchés. Il pria le pilote de le jeter à la mer pour faire cesser la tempête. Il l'avait tellement convaincu quand on était sur le point de le jeter à l'eau. Alors Jean, ayant imploré le secours de la très sainte Vierge Marie, il récita un Je vous salue Marie, et aussitôt la tempête s'apaisa. Encore une fois, la très sainte Vierge Marie avait montré combien elle est bonne quand on l'a prie. N'ayant plus de quoi vivre, Notre saint, lorsqu'il fut débarqué en Espagne, vendit des images, des petits livres, particulièrement des catéchismes, encore pour aider son prochain. Quand on lui achetait cette pieuse marchandise, il ne la donnait qu'en faisant quelque encouragement à la vertu ou contre le péché. Un jour, qu'il allait vendre des images dans un village, Jésus-Christ lui apparut, sous la figure d'un petit enfant, mal vêtu, pieds nus. Il en eut compassion. Il le porta sur ses épaules avec son bagage. Il suait de tout son poids, de sorte qu'après avoir fait quelques chemins avec lui, il eut besoin de se reposer, de se rafraîchir à une fontaine toute proche. Il pria le petit enfant, qu'il n'avait pas encore reconnu, de descendre de ses épaules. Alors Jésus prit, dans cette occasion, une figure extraordinairement éclatante, comme le jour de la transfiguration. Jean reconnut Jésus le Fils de Dieu. Il se mit à genoux devant lui, et Jésus lui dit, en lui montrant un fruit qu'on appelle grenade, « Jean de Dieu, désormais tu t'appelleras ainsi, et grenade sera ta croix. » Ainsi Jean connut maintenant la volonté de Dieu. Il savait que Dieu l'attendait dans la ville de Grenade. Il s'y rendit, il loua une petite boutique et continua à vendre des images pieuses, jusqu'à ce que notre Seigneur lui fît entreprendre autre chose pour sa gloire. Un jour, le bienheureux Jean d'Avila, si célèbre par sa sainteté et par l'éminence de sa doctrine, de ses sermons, prêchait sur le martyr de Saint-Sébastien dans un ermitage dédié en son honneur. Jean, par une délicatesse de la Providence, s'y trouva. Il se sentit si fort touché par la parole de Dieu, qui lui transperçait le cœur, qu'il sortit de cette église résolu de changer complètement de vie et d'accepter n'importe quel sacrifice en réparation de ses péchés. Pressé d'un extrême regret de ses fautes passées et voulant réparer, il sortait dans les rues en criant « Miséricorde, Seigneur, miséricorde à ce grand pécheur qui vous a offensé !» Il parcourait ainsi toute la ville pour montrer à tous qu'il voulait se repentir. Il se frappait le visage, se roulait dans la boue, contre le pavé. Bien sûr, bien des gens se moquèrent de lui, ne sachant pas le travail que la grâce faisait dans son âme. On le prit même pour un fou, et on l'enferma, et on lui donna 5000 coups en espérant le guérir ainsi. Mais lui, durant ce supplice, cria à ses bourreaux, « Frappez, frappez! Il est juste que je répare ainsi les péchés que j'ai commis. » Après ce dur traitement, heureusement, le père d'Avila, sous la conduite duquel il était maintenant, est venu le rechercher. Il l'a délivré de cet hôpital pour les aliéner. Sortant de l'hôpital, il fit le pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe, pour rendre grâce à la très sainte Vierge Marie les faveurs qu'il avait reçues. Deux fois, elle lui avait sauvé la vie, et maintenant, elle envoyait son fils pour lui montrer sa volonté. Sur le chemin, le démon lui apparut, sous la figure d'un seigneur, qui lui présentait une bourse pleine d'argent. Le priant de la recevoir pour ses besoins, qui étaient très grands, mais le soin lui répondit que la pauvreté qu'il avait vouée à Jésus-Christ, son maître, lui défendait d'accepter de l'argent. Cependant, Jean lui dit, « J'accepte cet argent à une condition, si c'est pour dire des messes ou pour aider les pauvres. » Aussitôt le démon disparut. Dès qu'il fut rentré dans l'église Notre-Dame de Guadalupe, il se prosterna contre terre, baisa le sol plusieurs fois, se traîna à genoux jusqu'à la porte. Ensuite, redoublant de ferveur et de sa dévotion, il alla saluer Jésus dans le très saint sacrement et prier devant la statue de la très sainte Vierge Marie. Comme il récitait le Salve Regina, à ces paroles de la prière, tourné vers nos regards miséricordieux, le voile qui couvrait l'image de la Sainte Vierge se retira pour lui donner moyen de la voir. Le sacristain accourut au bruit que le rideau avait fait en se déplaçant, sans que personne ne le touche, et il crut que Jean voulait voler la statue.
Il voulait lui donner un coup de pied, mais sa jambe fut paralysée. Il ne put être guéri que par la prière de Jean, ce qui fit connaître devant tous son éminente vertu. Alors il se mit à vendre dans un marché de Grenade du bois qu'il allait couper dans la forêt, et il consacrait cet argent qu'il gagnait pour les pauvres. Ceci dura quelques mois. Puis en 1540, il put louer une maison avec cet argent sur le marché des poissons, non loin de la cathédrale, encore pour y recevoir des malades. Il put y mettre 46 lits. Tout seul, il donnait les soins qu'engageaient toutes ces malades. Il soulageait leurs souffrances. Il faisait la cuisine. Il allait faire l'aumône, demander l'aumône. Il faisait tout, tout seul, mais avec la force de Dieu. Les habitants de Grenade, grandement édifiés de sa charité, s'empressèrent de l'aider. L'archevêque lui-même, Don Pierre Guerrera, ayant été instruit de tout ce qui se passait, voulut visiter l'établissement fondé par Jean. Et tout content de l'ordre admirable dans lequel il trouva l'hôpital, il prit cette maison sous sa protection et donna des sommes considérables pour lui assurer une existence stable. Et à son exemple, plusieurs personnes riches de la ville financèrent également le nouvel hôpital. La Providence est toujours là pour aider quand Dieu veut quelque chose. Pour donner à manger à tous ces pauvres, Jean parcourait la ville presque tous les jours avec une marmite sur le dos. Et dans les rues, il criait « Mes frères, pour l'amour de Dieu, donnez-moi quelque chose. Faites-vous du bien à vous-même. » En effet, la charité fait plus de bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit, car celui qui donne reçoit pour l'éternité une récompense. La bonté de Jean ne se bornait pas seulement aux malades de son hôpital, elle s'étendait encore à tous les malheureux qu'il rencontrait. Il leur donnait tout son argent, et quelquefois même, lorsqu'il n'avait plus rien à donner, il leur donnait un billet signé de sa main qu'il adressait à une personne pieuse en la priant de secourir celui qui était porteur de ce billet. C'est ainsi qu'en revenant un jour vers midi à son hôpital avec le pain nécessaire pour les 46 malades, il se vit entouré dans la rue par une troupe d'ouvriers sans travail qui le supplièrent d'avoir pitié de leur profonde misère. Vivement ému des plaintes de ces pauvres ouvriers, Jean de Dieu leur donna tout le pain qu'il rapportait. Et comme ce secours lui parut encore trop peu, il ajouta 12 pièces, seul argent qu'il avait sur lui. Une autre fois, ce furent de jeunes orphelins couverts de haillons et dégoûtants de saleté qu'il rencontra dans un village voisin de Grenade. Leur état était si misérable qu'il lui inspira une si profonde pitié qu'il les conduisit immédiatement chez une marchande. Il les fit habiller entièrement à ses frais. Et si ces malheureux abusaient de la bonne foi de Jean, si on l'avertissait que ses aumônes étaient parfois mal utilisées, Jean répondait toujours « Ça, ce n'est pas mon affaire. Ce que je donne, je le fais toujours par amour pour Dieu. Je peux me tromper de malade, mais je ne me trompe pas de Dieu. » Nous aurons beaucoup gagné, disait-il parfois, si par nos soins nous pouvons sauver une âme. Rien de tel que la bonté pour disposer les cœurs. Les petits-enfants avaient également une part à ces soins, car ayant appris d'une petite fille née depuis quelques jours seulement qu'elle restait orpheline et n'avait personne qui voulût prendre soin d'elle, il se rendit aussitôt à cet endroit, prit l'enfant dans sa robe et la mit en nourrice au village de Gavia, près de Grenade. La nourrice n'ayant pas répondu à l'attente de Saint-Jean, il en chercha une autre plus soigneuse et continua de surveiller l'éducation de cette pauvre petite orpheline. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Sans cesse, Jean avait cette phrase dans son âme. Il fit encore plus, et confia à un négociant une somme de 50 pièces pour qu'il les fît prospérer dans son commerce, pour le bien de cette fille. Il put la marier plus tard, et lui procurer ainsi une maison et une famille. Enfin, sa charité était si grande qu'elle comprenait même les mourants et les morts. En faisant sa quête journalière, il traversait un quartier très pauvre de Grenade. Un jour, il rencontra le cadavre d'un malheureux qui était abandonné au milieu de la rue. Pris de pitié, il courut chez un riche personnage et le pria de lui donner l'argent nécessaire pour faire enterrer le mort. Se leva et lui dit: Jean, le bien que vous faites aux pauvres, c'est à moi-même que vous le faites. C'est moi qui reçois l'aumône que vous leur donnez. C'est moi qui me couvre des habits que vous les revêtez. Et vous me lavez les plaies autant de fois que vous accomplissez ce soin charitable envers les pauvres. Continue, Jean. À ces mots, Jésus-Christ disparut, laissant Jean dans une grande consolation qui lui fit oublier toutes les fatigues et toutes les épreuves que ses œuvres de charité lui avaient causées, et lui donnèrent un si vif désir de soulager son prochain qu'il se précipita un jour dans un incendie qui ravageait une maison. 10 fois, 100 fois, il rentra à sortir pour sortir ceux qui étaient prisonniers des flammes et les sauva tous. Il était à moitié brûlé dans ses vêtements, mais lui était complètement intact. Dieu bénit et protège les bonnes œuvres. Malgré le temps qu'il employait à l'accomplissement de toutes ses œuvres de charité, il faisait néanmoins chaque jour une quête à travers les rues de Grenade. Et cette quête était encore plus pour lui une occasion de montrer sa patience et son humilité. Un jour, il fut poussé par la foule en face d'un seigneur qui montait la rue à pied. Jean de Dieu s'empressa de se pousser pour laisser le passage à ce seigneur, mais dans sa précipitation, un large panier qu'il portait au bras accrocha le manteau du gentilhomme et le lui enleva de l'épaule. Celui-ci alors traita durement le misérable inconnu qu'il avait devant lui. Mais sa colère devient plus vive lorsque Jean de Dieu lui dit, suivant sa coutume, « Pardon, mon frère. » Alors il lui donna des gifles. Et comme il ne recevait pas d'excuses, et que Jean lui répétait, « Mon bon Seigneur, j'ai bien mérité ces coups, vous pouvez m'en donner d'autres. » Alors les coups pleuvaient de plus belle, et encore, et encore, et encore. Ses serviteurs s'empressèrent de faire pleuvoir les coups sur lui aussi. Alors qu'un homme arriva, lui dit, « Mais mon Seigneur, arrêtez de frapper cet homme, c'est Jean de Dieu, le serviteur des malades. » À ce nom vénéré dans tout Grenade, le Seigneur se retourna stupéfait et contrit. Il voulut se jeter à genoux de Jean, mais celui-ci se releva, le releva en l'embrassant, et se séparèrent en se demandant mutuellement pardon. Le lendemain, Jean de Dieu reçut une invitation à dîner de ce gentilhomme, qui lui envoya 50 écus d'or. Oui, Dieu bénit l'humilité, la miséricorde et la patience. Un autre jour, un serviteur le poussa brusquement dans un bassin plein d'eau, et il en sortit sans manifester la moindre émotion, sans donner le moindre signe de mécontentement ou d'impatience. Dans une autre circonstance, un homme lui ayant jeté une pierre à la figure, Jean l'excusa, en disant « Je peux bien pardonner à cet homme une offense, moi qui en ai tant à me faire pardonner devant Dieu. » Jean supportait enfin avec le plus grand calme les paroles injurieuses de ceux qui refusaient de lui faire l'aumône. Mais toute la personne de Jean de Dieu respirait une si haute vertu, une si vénérable impression, que le plus souvent, il pliait sous le poids des aumônes. Alors il rentrait très tard à son hôpital, et accablé de fatigue, il passait une grande partie de la nuit quand même au chevet des malades, puis ensuite devant Dieu. Mais Jean, qui était toujours prêt à aider les pauvres, ne fut pas seulement content d'aider les pauvres à Grenade, mais il s'en occupa aussi dans les villages environnants. Comme un jour, un de ses compagnons lui reprochait de donner aux pauvres des autres hôpitaux ce qu'il aurait dû donner à son hôpital, Jean répondit, « Mon frère, que l'on donne à Grenade ou ailleurs, c'est toujours donner à Dieu, car Dieu est en tout lieu et en tous les pauvres. » Ce sentiment de miséricorde qu'il avait pour les autres ne s'étendait pas jusqu'à lui, et s'il était si doux envers son prochain, il était extrêmement sévère à l'endroit de son propre corps. tout était pour les autres. Il faisait tout son possible pour coucher le malade à leur aise. Quant à lui, il est couché par terre. Tout son vêtement consistait en une tunique de gros drap. Il n'usait jamais de linge ni d'aucune étoffe fine. Il allait toujours à pieds nus. Sa nourriture ordinaire n'était qu'un peu de légumes. Encore, il n'a mangé qu'une fois par jour. Et pour le vendredi, il les passait toujours au pain et à l'eau seulement. En un mot, il traitait son corps comme un esclave, selon la parole de l'Écriture. Après le pain, il ne faut point épargner la discipline ni le travail. C'est pourquoi il ne lui épargnait pas cette espèce de mortification. Il ne cessait de se frapper que lorsque le sang coulait de son corps en abondance. Tout ceci n'est pas à imiter, mais c'est un encouragement pour nous à ne pas faire les difficiles. Jean employait à prier tout le temps qu'il avait de reste après qu'il avait assisté les malades. Il disait, en quittant la prière et en se radant auprès des malades, « Je quitte Dieu pour aller servir Dieu dans les pauvres. » Souvent, quand il priait, tard la nuit, il s'écriait parfois, « Ah, qu'il est indigne de celui qui veut servir Dieu de penser à dormir !» Sa ferveur durant ses prières paraissait par les larmes qui coulaient de ses yeux en pensant à la passion de Jésus, et aussi par la splendeur extraordinaire qui brillait sur son visage, ardent qu'il était d'imiter Jésus. Le diable, tout rageux qu'il était de voir le bien qui se faisait dans cet hôpital, voulut l'attaquer. Tout d'abord, le diable attaqua par des femmes de mauvaise vie, qui chaque fois qu'elles rencontraient dans les rues, le traitaient d'hypocrite, de bigot, de grenouille, de bénitier. Une fois, Jean lui donna même 2 pièces pour qu'elles continuent leurs injures, tout heureux qu'il était d'être ainsi maltraité et de gagner des mérites. Un honnête homme prenant un jour sa défense, Jean le pria en ces termes. « Je vous en conjure, par la charité de Dieu, laissez faire ces femmes. Elles me connaissent mieux que vous, et elles savent que je suis le plus méchant homme du monde qui mérite de réparer mes péchés. » Le démon, voyant qu'il ne pouvait rien parler personne, voulut l'attaquer lui-même. En effet, une nuit que le serviteur de Dieu faisait sa prière, il lui apparut sous une forme hideuse qui jetait le feu de sa bouche. Il le maltraitait de ses mauvais traitements. Les coups pleuvaient sur lui. Alors les frères accoururent au bruit qui était dans cette pièce et le trouvèrent à moitié évanoui, abattu, couvert de plaies. Mais il s'écria en jetant les yeux sur le crucifix. « Jésus, délivrez-moi de Satan. Jésus, soyez avec moi. Ayez pitié de moi. » Peu de temps après, il revint encore dans sa chambre sous la figure d'une jeune fille. Mais le saint, reconnaissant par ses réponses qu'il était le démon, invoqua le nom de Jésus et le démon disparut. Une autre fois, le démon prit l'apparence d'un pauvre qui demandait l'aumône. Mais Jean refusa de la lui donner à moins qu'il ne la demandât par amour pour Dieu. Le démon lui donna un si rude coup contre l'estomac qu'il le fit reculer fort loin. En un mot, le démon le persécuta tellement que Saint Jean fut tantôt 8 jours, tantôt 1 mois, pour se remettre des coups qu'il recevait de lui. Mais si Dieu, pour éprouver la vertu de son serviteur, permettait qu'il fût affligé de cette sorte, il ne manquait pas par ailleurs de le consoler, de plusieurs manières, par des grâces, des faveurs, des visions, et surtout par une abondance miraculeuse d'aumônes pour l'entretien de son hôpital et des pauvres. Jean de Dieu rencontra un jour Don Pierre Henriquez, marquis de Tarisa, qui jouait avec d'autres seigneurs. Ils lui donnèrent tous ensemble par aumône jusqu'à 25 pièces d'or. Le soir, le marquis s'en alla à l'hôpital en habit déguisé et fit semblant d'être un pauvre gentilhomme tombé dans la misère. Il le pria d'avoir pitié de lui et de lui donner du secours. Le saint, touché de compassion, lui donna 25 pièces d'or. Henriquez les reçut et alla les montrer à ses amis. Le lendemain, convaincu de la vertu de Jean, il lui rendit les 25 pièces d'or et lui donna encore 150 écus d'or. Il lui fit envoyer 150 pains, 4 moutons, 8 poules et commanda à son maître d'hôtel de lui donner tous les jours cette provision tant qu'il vivrait à Grenade. Vous voyez que quand on fait la charité, quand on donne, on reçoit toujours en retour. L'aumône n'appauvrit jamais, elle enrichit spirituellement et souvent même matériellement. Dieu donna aussi à Jean le don de prophétie sur les secrets des cœurs et sur l'avenir aussi. Grâce à ce don, Jean put convertir de gros pécheurs qui cachaient des péchés en confession et qui rendaient ainsi leur confession nulle. Il vit un jour des yeux de l'esprit un tisserand très pauvre qui allait s'étrangler à un arbre de son jardin, se suicider. Le saint, qui était malade, demandant son habit, se vêtit et courut au secours de ce pauvre tisserand. Et il le sauva. Jean prédit aussi que plusieurs personnes pleines de charité pour le service des malades établiraient à son exemple dans le monde une congrégation qui s'occuperait de continuer son œuvre à lui. Et on a pu voir s'accomplir cette prophétie qui a vu l'ordre des serviteurs des pauvres être établi par le pape Paul V avec la règle de saint Augustin. On les appellera plus tard les frères hospitaliers, faisant le vœu de l'hospitalité envers les pauvres et les malades. En plus de ces grâces dont nous avons parlé, le Seigneur l'a bien voulu honorer plusieurs fois de sa présence sensible. Comme il priait un jour devant le crucifix dans l'église de Notre-Dame, il vit Jésus-Christ accompagné de la Sainte Vierge et de Saint Jean l'Évangéliste. La Sainte Vierge s'approcha de lui avec une couronne d'épines dans les mains, elle lui l'a mise sous la tête en disant « Jean, c'est par les épines et les souffrances que l'on mérite la couronne que mon fils se donne dans le ciel. » Et en même temps, il sentit de vives douleurs, mais son amour lui fit répondre « Je recevrai de votre aimable main ces épines et ces souffrances, puisqu'elles m'assurent le paradis et me rendent semblable à Jésus. » Oui, il faut porter sa croix pour aller au ciel. En fuyant les croix, on en retrouve d'autres. Mais en acceptant la croix que Dieu nous donne, elle devient plus légère par l'amour qu'on lui donne. Mais tant de travail, tant de fatigue, tant de sacrifices, tant d'épreuves usèrent les forces du serviteur de Dieu, qui furent complètement anéantis par un acte de charité héroïque. C'était pendant l'hiver de 1550. Le torrent qui coule sous les murs de Grenade roulait une grande quantité de bois dans ses eaux torrentueuses, gonflées par la fonte des neiges de la Sierra Nevada. Jean, désirant utiliser ce bois pour le service de son hôpital, entra dans le fleuve, et le froid qu'il ressentit détermina chez lui un frisson si violent qu'on dut le retirer de l'eau. Mais s'apercevant qu'un serviteur de l'hôpital s'était avancé avec imprudence au milieu du torrent et qui allait se noyer, il se précipita de nouveau dans l'eau pour essayer d'arracher ce serviteur à la mort. Ils disparurent tous les deux dans le courant. Jean seul, un peu plus tard, sortit de l'eau.
Jean était désespéré de n'avoir pu sauver ce serviteur de l'eau, et la fièvre fit de rapides progrès, de telle sorte que peu à peu, Jean prenait le chemin du ciel. Il voulut régler ses comptes, rendit à ses amis tout ce qu'il leur avait emprunté. L'archevêque lui-même voulut lui donner les derniers sacrements. Il le confessa, célébra la messe dans sa chambre, lui donna la communion du Saint Viatique, le pain des pauvres qui aide à faire une bonne mort, puis l'extrême onction, donnant la grâce d'échapper au dernier assaut du démon, qui fait tout au dernier moment pour arracher les âmes, mais qui ne peut rien devant la force de Dieu. D'où l'importance de ce sacrement des malades. L'archevêque demanda à Jean s'il n'avait rien sur le cœur avant de mourir. Et Jean fit cette admirable réponse, qu'il faut imprégner dans notre cœur, nous qui sommes bien moins saints que lui. Ah, mon Seigneur, une chose me donne de l'inquiétude. J'ai tant reçu de Dieu, tant de grâce, et j'ai fait si peu. Enfin, le bienheureux, sentant approcher l'heure de sa mort, ou plutôt de son entrée dans la vie, fit sortir tout le monde de sa chambre. Il se leva, se mit à genoux, embrassa le crucifix et rendit son âme à son Créateur. En prononçant ces très douces et très fortes paroles, « Jésus, Jésus, c'est entre vos mains que je remets mon âme. » C'était le 8 mai 1550, après minuit. Il fut béatifié par Urbain VIII en 1630, canonisé en 1690 par Alexandre VII. Saint Jean de Dieu est spécialement honoré en Espagne. Les libraires se sont également placés sous sa protection, parce qu'il avait été quelque temps le porteur de livres et d'images. On le représente avec une corde autour du cou, ou une courroie, suspendue à laquelle il y a le chaudron dans lequel il est recueilli les aumônes et les offrandes des fidèles. On le représente aussi parfois dans sa main gauche une grenade ordinairement surmontée de la croix qui rappelle la vocation miraculeuse que lui avait donnée le Seigneur. Grenade sera ta croix. Ce fut en effet dans cette ville de Grenade que Jean établit son premier hôpital. On le figure enfin couronné d'épines, couronne que la Sainte Vierge lui avait donnée. On le voit aussi emportant un homme sur son dos. Saint Jean de Dieu est le patron des hospitaliers. Saint Jean de Dieu, augmentez dans notre âme la charité envers notre prochain, que nous servions Dieu dans nos frères, que nous réparions nos péchés, notre égoïsme, notre froideur, nos négligences passées, par une charité maintenant ardente, généreuse, compatissante, bienveillante, oubliant de nous-mêmes pour aider les autres, les plus malheureux, les plus proches, tous ceux que Dieu enverra sur notre chemin. Tout cela par amour pour Dieu, pour ressembler à Jésus, pour faire du bien autour de nous, car c'est pour cela que Dieu nous a créés, et c'est sur cela qu'on sera jugé, sur le bien qu'on a fait ou qu'on n'aura pas fait. Saint Jean de Dieu, fortifiez-nous dans cette résolution d'être comme Dieu, charité.